Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et à mes côtés, il rajeunit de jour en jour, peut-être cette crème de nuit aux perles de chia que lui a offert sa copine Brigitte Macron. Bonjour Stéphane Bern, quelle mine.
Bonjour Mathieu Noël, ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire sans complexe et on vient de le voir, sans tabou.
Ah, aucun tabou entre nous, c'est vrai Stéphane, chaque après-midi, qu'on aime ou pas l'histoire d'ailleurs, hein, vous allez voir, on se pique vite au jeu. On voyage dans le temps, d'époque en époque, en retraçant les destins de trois personnalités qui, sur le papier en tout cas, n'ont rien à voir et qui ont pourtant un point commun.
Aujourd'hui, que diriez-vous d'une partie de cache-cache ?
Ah oui, c'est quand même très très détendu comme approche de l'histoire.
Mais non, c'est notre thématique du jour, les as du cache-cache. Je vous raconterai l'histoire de Néfertiti, dont la disparition demeure un mystère. Le peintre Michel-Ange aussi a dû se cacher des Médicis en 1530, mais où et comment ? Ah, vous aimeriez bien le savoir ?
Mais je vais le savoir, parce que contractuellement, vous devez nous le dire à un moment ou un autre de cette émission.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Parmi vos autres obligations contractuelles, n'oubliez pas le quiz. Véritable moment pivot dans cette émission qui permet nos éditeurs de vérifier vos réelles compétences en histoire. J'insiste bien sur le mot réel. Vous serez opposé comme de juste à notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach.
Et au sommaire, justement, Clémentine Portier-Kaltenbach. Avant de jouer, elle nous fait pénétrer sur la pointe des pieds. Dans l'intimité de l'histoire, elle a découvert des petits secrets des grands de ce monde. Et aujourd'hui, on remonte très 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 loin dans le temps, dans une grotte classée X.
Grotte classée X.
Oui.
Ah, c'était
oui.
Genre. C'est chaud.
Lui remonte à sa manière aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, David Cassé-de-Lopez nous raconte les origines de la valise à roulettes.
C'est plus soft.
Tout à fait.
Et Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous fait savourer l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui, à l'honneur, la salade niçoise.
Oh, il fait aussi l'accent du Sud, fort bien.
Enfin Mathieu, c'est à vous que reviendra l'honneur de réaliser notre troisième portrait du jour. Toujours un roi du cache-cache, puisque c'est notre thématique, mais plus contemporain. Vous, c'est moi, je fais la partie ancienne, Néfertiti et Michel-Ange. Vous, vous faites la partie moderne. C'est qui votre personnage?
Il est extrêmement contemporain, tellement qu'il est toujours vivant, un génie de l'évasion.
Ah, David Copperfield, je sais.
Non, le David Copperfield libanais, Carlos Ghosn. Non. Est-ce que vous tenez dans une malle, Stéphane? En rentrant le ventre, peut-être. Je sais jamais, si jamais vous devez fuir au Luxembourg un jour. Testez.
Pourquoi fuir?
Non, c'est pas de problème avec le fisc. J'en sais rien, ça peut arriver très vite.
Oh non, non. Alors, votre portrait à 99% vrai de Carlos Ghosn, donc ce sera vers 17h30. J'espère que le service juridique d'Europe 1 est prêt.
Moi aussi, oui.
En attendant, on accueille David Castello-Lopez.
Bonjour David.
Bonjour à vous.
Vous nous parlez donc de valises à roulettes, rien à voir avec Carlos Ghosn.
Oh, vous savez, les valises à roulettes, ça concerne tout le monde. Hein.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Cet après-midi, avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables de trois as du cache-cache, Néfertiti et surtout sa momie, le peintre Michel-Ange qui a fui les Médicis.
Et mon as du cache-cache à moi, ne l'oublions pas, Carlos Ghosn qui lui a voyagé dans une malle sans roulette en plus.
Je reconnais bien là votre goût du risque. Et en parlant de risque, lui aussi en prend chaque jour.
Oh.
Depuis quand, comment et surtout pourquoi a-t-on créé la valise à roulettes?
Bah pour aller plus vite. Merci David Castello-Lopez.
Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais oui, mais David Castello-Lopez a la réponse, n'est-ce pas David?
Tout à fait, je l'ai. Alors moi, je suis né dans les années 80. Donc je fais partie de la dernière génération, la même que la vôtre, donc Mathieu, qui a connu le monde analogique. Celui où on écrivait des lettres, non pas pour faire cool, mais parce que c'était le seul moyen d'envoyer des choses écrites à quelqu'un. Celui où on déployait dans la voiture, vous savez, des cartes routières de la taille d'une brouette pour trouver son chemin.
Et où on s'engueulait.
Celui où on entendait encore cette phrase disparue depuis, faut que je rentre chez moi parce que j'attends un coup de téléphone. Voilà. Mais il y a aussi eu, Mathieu, depuis notre enfance, une révolution plus discrète qui est celle de la valise. Quand j'étais petit, la valise était un truc gros, lourd et surtout complètement dépourvu de roulettes. Mais aujourd'hui, les valises, elles sont incroyablement plus efficaces et pratiques qu'elles ne l'étaient. En gros, toutes les valises, aujourd'hui, elles ont un manche télescopique et elles roulent sur deux ou sur quatre roues. Les valises à deux roues, on les traîne, un petit peu comme un chien qu'on tiendrait en laisse, mais qui ne voudrait pas avancer, vous voyez. Et la valise à quatre roues, On la pousse à côté de soi comme une sorte de petit enfant parallélépipédique auquel on tiendrait la main.
Un enfant parallélépipédique.
Mais oui, c'est exactement ça.
Oui, c'est vrai.
Et on peut même poser des choses dessus.
On peut même poser des choses dessus.
Exactement. Sur la valise.
Oui, dans un premier temps sur la valise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient la valise à roulettes moderne? Bon, alors, on s'en doute, l'idée de mettre des roulettes sur un bagage, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont eu. Hein,
parce que c'est pas tellement simple.
Mais c'est pas super dur à avoir comme idée. Et du coup, il y a même des petites controverses hein, dans le petit monde de la valise sur qui a été le premier. Mais pour aller vite, la première valise à roulettes qui a eu un certain succès commercial, elle a été inventée par Bernard Sado, un Américain encore, en 1970. Bernard, il était dans un aéroport à Porto Rico. Il a vu un employé de l'aéroport déplacer un truc très lourd sur un chariot à roulettes et il s'est dit « je vais faire la même chose ». J'ai conscience que c'est pas la meilleure histoire d'invention que je vous ai servi jusqu'à présent.
C'est pas la plus frappante.
Mais bon, non, mais il y a quand même un truc intéressant dans ce que raconte Bernard Sado, c'est qu'il a essayé de vendre sa valise dans les grands magasins américains, mais qu'il a eu beaucoup de mal parce qu'on lui disait en gros que faire rouler sa valise, c'était vraiment un truc de gonzesse.
Et c'est ce qu'on pensait pour les trottinettes. Mmh. Oui, voilà. Finalement, tout le monde était dans les trottinettes.
Et que jamais, il se disait que jamais les vrais mecs, hein, ils achèteraient des valises à roulettes. Parce que les vrais mecs, eux, non seulement ils soulèvent leur bagage hein, comme des mecs, mais en plus, ils montrent jamais leurs sentiments. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable de voir que dans les premières publicités pour des valises à roulettes, eh bien, ce sont très majoritairement des femmes qui sont représentées. Je vais vous dire, même dans la pub pour la Samsonite Saora Spinner, hein, qui est considérée par beaucoup comme la première valise moderne à quatre roulettes, le petit enfant parallélépipédique. J'aurais pu parler de Delsey hein, ou de.
Vous pouvez citer quelques marques d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Stéphane, bientôt on part en vacances, donc on peut citer des marques.
Samsonite, Delsey, voilà, North Face, voilà.
Eh bien, la Rinowa. Maintenant, il y a
Rinowa. Exactement. Il veut le truc le plus cher tout de suite. Stéphane, je vous en prie.
Mais non, mais c'est les plus légères.
Oui, c'est les plus légères, elles ont un prix.
Elles ont un prix, la légèreté a un prix. Oui. Voilà. Et bien la star de cette pub, on revient à la pub pour la Samsonite Saora, la star de cette pub en 2004, c'était une femme aussi. Et dans la pub, on la voit traverser le monde avec un air d'urgence professionnelle du genre « Poussez-vous s'il vous plaît, je suis belle, j'ai pas le temps. Voilà. » Et donc, en 2004, il y avait encore sans doute une petite idée que la valise à roulettes, c'était pour les femmes. L'invention de Bernard Sado, elle a quand même fini par avoir un grand succès, mais il a quand même été très aidé par le fait qu'à partir des années 70, l'avion était en train de remplacer le train comme moyen de transport cool. Les aéroports à cette époque, ils deviennent vachement plus grands, et donc il faut trimballer sa valise sur des distances de plus en plus grandes, et pour ça, la valise à roulettes, c'est quand même vachement mieux. À cette époque, la valise de Sado, c'est une valise qu'on traînait dans le sens de la longueur, avec une sorte de laisse molle. La valise à roulettes moderne, celle avec une poignée télescopique et deux roues, elle date de 1987, et elle a été inventée par un pilote de ligne qui s'appelait Robert Platt. Et Robert, il a été assez malin parce qu'il a d'abord vendu son invention à ses collègues pilotes et hôtesses de l'air. Or, les pilotes et les hôtesses de l'air, ils ont deux avantages. Un, ils passent leur temps dans les aéroports, donc tout le monde les voit. Et deux, c'est des professionnels du voyage. Donc, quand on les voit, on se dit, s'ils utilisent la valise à roulettes, c'est que ça doit être cool.
Ça fait une pub vivante pour la valise.
Exactement, c'est des pubs ambulantes pour la valise à roulettes. Et à force de les voir passer et repasser, donc, avec leur nouvelle valise du futur, eh bien, les gens, ils ont commencé à dire, moi aussi, j'en veux une. Et c'est ce qui explique le boom de ces valises au cours des années 90. À l'époque, Mathieu, où on voyait adolescents, l'Internet faire ses premiers pas.
Oui, ça faisait clic-clac.
Exactement. Et où les gens avaient de moins en moins besoin de rentrer chez eux pour recevoir leur coup de téléphone.
Merci beaucoup.
Merci.
David Cassel-Lopez. On peut vous réécouter le jour, même la nuit. Hein.
Oui, si on veut.
Parce que si vous avez une insomnie, l'histoire des valises, c'est quand même passionnant. Retrouvez les origines en podcast sur toutes les applis sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ils ont régné parfois sur des empires et un jour, pof, ils ont disparu. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on vous raconte le destin des As du cache-cache. De Michel-Ange dans sa sacristie à Carlos Ghosn dans sa malle de voyage criant à ses complices.
Tirez-vous, on est foutus !
Une galerie de portraits qui commence par une reine dont la disparition mystérieuse alimente encore les polémiques trois millénaires après sa disparition. Stéphane Bern vous raconte Nefertiti.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, 2 heures de bonne humeur pour découvrir trois personnages historiques qu'a priori tout oppose. Ils ont pourtant un point commun. Aujourd'hui, ce sont des as du cache-cache.
Et Stéphane, pour notre premier grand récit du jour, vous avez choisi de nous parler de Nefertiti, grand mythe de l'Égypte ancienne et épouse du roi Akhenaton, une icône entourée depuis quelques années maintenant de bandelettes, mais aussi et surtout de mystères.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Nefertiti. Malgré les quelques 3400 ans qui nous séparent de son existence, est célèbre dans le monde entier. Pourquoi cette reine du Nouvel Empire est-elle aussi connue ? Quand d'autres comme Hatshepsut ou Tétichéri, qui ont joué un rôle capital pour leur empire, le sont beaucoup moins. Réponse ? Grâce à son buste.
Son buste, vous voulez dire Stéphane, c'est ça quoi.
Non, vous n'êtes jamais allé au Neues Museum de Berlin.
Non, je n'ai pas eu cette chance, oui. Stéphane.
Un visage d'une perfection saisissante, représentant la reine portant une haute coiffe bleue. C'est un véritable chef-d'œuvre de la sculpture égyptienne, découvert en 1912 sur le site antique de Tel El Amarna en Moyenne-Égypte. Et puis, vous le disiez Mathieu, Néfertiti est connue également pour les nombreux mystères qui entourent sa vie. Toutankhamon était-il son fils ?
Ouais, moi je suis sûr.
A-t-elle été associée à l'exercice du pouvoir aux côtés de son époux, Akhenaton ? Se cache-t-elle sous les traits de Smenkhare, le pharaon qui aurait succédé à Akhenaton ?
Alors là ?
Toutes ces questions ont fait ou continuent de faire débat parmi les égyptologues, mais la plus grande des énigmes, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est où se cache-t-elle ? Ni sa momie, ni sa sépulture n'ont jamais été formellement identifiées. C'est là l'un des plus grands mystères de l'Égypte antique. Une question qui passionne les archéologues depuis des décennies.
Et qui nous passionne tous, je crois, Stéphane.
Bon, je l'espère, Mathieu. Partons donc sur les traces de la momie de Néfertiti. Est-elle, comme certains le pensent, cachée quelque part dans le tombeau de Toutankhamon, dans la vallée des rois, près de l'actuel Louxor ? C'est l'une des hypothèses les plus répandues sur le sort de la dépouille de Néfertiti. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter très loin dans le temps, à la fin de la première moitié du XIVe siècle avant notre ère, durant la 18e dynastie égyptienne. Sous le règne d'Akhenaton, la cour qui se trouvait jusqu'alors à Thèbes est transférée dans une nouvelle capitale baptisée Akhetaton. Aujourd'hui, un site archéologique majeur connu sous le nom de Tel El Amarna. Là où on a donc retrouvé le fameux buste de Néfertiti. Le buste, oui, mais pas son tombeau.
Ah.
Sur ce site archéologique, on a uniquement retrouvé le tombeau d'Akhenaton.
Et pas celui de Shuriken.
Et heureusement pour eux, on sait grâce aux sépultures retrouvées dans la vallée des rois que sous le règne de Toutankhamon, plusieurs des corps enterrés à Amarna ont été exhumés et rapatriés à Thèbes, et parmi eux, Akhenaton lui-même. Logiquement donc, si Akhenaton se trouve dans la nécropole, la momie de Néfertiti devrait y être aussi. Parce qu'il était de coutume durant la 18e dynastie, en tout cas, que les reines égyptiennes soient enterrées aux côtés de leur mari. Mais alors, elle est où ?
C'est la question que tout le monde vous pose depuis tout à l'heure, Stéphane.
En 2015, l'archéologue britannique Nicholas Reeves, grand spécialiste de la Vallée des Rois, avance une théorie qui va faire grand bruit. La momie de Néfertiti se trouverait bien dans une chambre annexe et encore inviolée du tombeau de Toutankhamon, découvert en 1922 par l'anglais Howard Carter. Le fameux tombeau de Toutankhamon qui a révélé les plus riches trésors jamais découverts dans une sépulture de pharaon. Ces arguments sont solides. Ils se basent sur des images haute résolution du tombeau sur lesquelles on peut discerner des micro-fissures laissant suggérer l'existence de passages secrets. Autre indice d'importance, la taille de la sépulture de Toutankhamon. Elle est beaucoup plus petite que les tombes dévolues aux autres souverains de la même dynastie. Où sont donc les autres pièces ? Et puis, on a découvert dans le tombeau de nombreux objets qui n'auraient pas été fabriqués pour le défunt, comme une statue censée représenter le jeune pharaon, mais arborant une poitrine de femme. Selon de nombreux spécialistes, la mort précoce du jeune pharaon, à 19 ans, aurait surtout poussé son successeur à piller les sépultures d'Akhenaton et Néfertiti pour remplir le tombeau de Toutankhamon. Dans son empressement, aurait-il installé la dépouille du jeune pharaon dans une tombe préexistante, celle de Néfertiti ? Dans ce cas, la sépulture de la reine se trouverait à proximité immédiate. Pourtant, voyez-vous, en 2018, cette théorie est envoyée aux oubliettes.
Oh non, parce que j'aimais bien cette théorie, moi.
Mais moi aussi, mais le ministre égyptien des Antiquités annonce qu'aucune chambre cachée ne se trouve à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon. Il s'appuie pour cela sur une recherche géophysique utilisant un radar à pénétration de sol. Mais une nouvelle théorie sur l'emplacement de la momie de Néfertiti apparaît. Mais avant de la connaître, vous allez devoir patienter.
Oh non !
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, une fois de plus, vous êtes interrompu dans votre récit au moment où vous nous annonciez que la partie de cache-cache avec la momie de Néfertiti était peut-être terminée.
Néfertiti n'est pas dans le tombeau de Toutankhamon, vous le savez désormais. Mais certains, dont l'archéologue français Marc Gabold, avancent une autre hypothèse. Néfertiti
ne serait autre que l'une des momies retrouvées en 1898 dans la vallée des rois, dans la tombe du pharaon Amenhotep II, l'arrière-grand-père d'Akhenaton. Des tests ADN ont révélé que cette dépouille surnommée Young Lady ou Young Lady, la jeune dame, était à la fois la mère de Toutankhamon et sa tante, donc la sœur d'Akhenaton. Eh oui, cela est possible. L'inceste, savez-vous, était monnaie courante dans l'ancienne Égypte.
Mais dites-nous ça doucement, Stéphane, parce que là, j'ai pas compris. C'est sa tante et c'est sa mère en même temps.
Oui, promis. Je vais faire attention à vous. Néfertiti pourrait-elle être la mère de Toutankhamon? Toute la question est là, et les spécialistes sont divisés sur le sujet. C'est ce qu'avance en tout cas cette théorie. Cette momie, dont l'étude génétique prouve qu'elle est la mère de Toutankhamon, ne serait autre que Néfertiti elle-même. Mais alors, selon ces mêmes analyses, Néfertiti serait également la sœur d'Akhenaton. Or, il a été établi que Néfertiti et son époux n'étaient que cousins.
Mais écoutez, là, franchement, même Christine Boutin ne comprend plus rien, Stéphane, à cette histoire.
Pour parer à cette incohérence, notre chercheur a émis l'hypothèse selon laquelle les mariages entre cousins des générations précédentes auraient brouillé les pistes génétiques. Dans un cas pareil, cousins et cousines pourraient partager les mêmes similitudes génétiques d'un frère et une sœur. Donc, la momie de la Younger Lady pourrait être tout à fait Néfertiti. Je vous ai convaincu ?
Non.
Eh bien, vous auriez peut-être raison. Enfin, peut-être, hein, je dis peut-être. Rien n'est sûr, Mathieu, avec cette histoire.
J'ai l'impression.
Ce début d'année 2020 nous a réservé un rebondissement de taille. Des archéologues menés par l'ancien ministre des Antiquités égyptiennes, Mandou El-Damati, ont scanné les environs du tombeau de Toutankhamon et réalisé une nouvelle trouvaille. Il y aurait une pièce inconnue à quelques mètres à l'est de la chambre funéraire de Toutankhamon et à la même profondeur. Il n'en fallait pas moins pour que l'hypothèse de Nicholas Reeves fasse son retour en force. Alors Mathieu, maintenant que vous avez toutes les cartes en main, à votre avis, elle se trouve où la momie de Néfertiti ?
Aucune idée.
Europe 1, historiquement vôtre.
En revanche, je sais où se trouve Florence Maruéjol qui a accepté de répondre à nos questions et va tout nous révéler, nous dire précisément, coordonnées GPS à l'appui, où se trouve cette foutue momie de Néfertiti. Et je crois que vous allez être surpris.
Bonjour Florence Maruéjol.
Bonjour.
Vous êtes docteur en égyptologie, auteur notamment de l'Égypte ancienne pour les nuls, aux éditions First, livre dans lequel vous évoquez largement la reine, que dis-je, la star des stars de l'Égypte ancienne, Néfertiti. Je viens de raconter la disparition de Néfertiti. Ça demeure l'un des plus grands mystères de l'Égypte ancienne. Alors, on n'a retrouvé ni sa momie, ni sa sépulture. À votre avis, vous, d'après les dernières infos que vous avez pu avoir, elle est où Néfertiti ?
Eh bien, je répondrai également aucune idée.
J'avais bon.
Vous aviez bon, absolument.
Oui, on continue de la chercher.
Oui, enfin, disons que certains la cherchent, mais c'est aussi bon, des choses très passionnantes, en fait, autour de l'histoire de Néfertiti.
Mais alors, pourquoi on a son buste ? Parce qu'on a retrouvé, l'idée c'est qu'on a retrouvé son buste. Son buste qui est d'ailleurs exposé, qui est magnifique au musée de Berlin. Et pourquoi on n'a pas retrouvé sa momie ?
Parce que ce sont des choses tout à fait différentes. Le buste a été retrouvé dans l'atelier d'un sculpteur de la ville d'Akhenaton, donc à Amarna. Le sculpteur est parti, en fait a quitté Amarna une fois après la mort d'Akhenaton. Et en fait, il a abandonné les sculptures sur place parce qu'elles n'avaient plus aucune utilité. Mm-hmm. Parce qu'on est revenu en fait à la religion traditionnelle après la mort d'Akhenaton.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, je fais juste une petite parenthèse. Akhenaton avait créé une nouvelle religion. Du dieu Aton.
Exactement.
Il avait créé une religion, il a effacé les autres dieux au profit d'un seul dieu, Aton.
Voilà, qui était le disque solaire, qui était cantonné dans le ciel, qui avait des rayons qui se terminaient par des mains et qui donnait le souffle de la vie au roi, à la reine et aux petites princesses. Et charge à la famille royale de transmettre cette vie aux êtres humains, aux Égyptiens. Et Néfertiti a joué un rôle apparemment important dans la réforme. D'après ce qu'on peut voir sur la documentation, sur les reliefs ou dans les textes, elle accompagne toujours son mari. Alors, quel était son rôle précis, l'influence qu'elle a exercée, bon, ça, là, c'est un petit peu difficile à dire, mais toujours est-il qu'elle est sans cesse aux côtés du roi, elle est complètement associée à cette réforme religieuse.
On continue de parler de Néfertiti, la momie la mieux planquée de l'histoire, avec notre invitée Florence Maruéjol sur Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter, vous le savez. Et aujourd'hui, on parle de ces as du cache-cache. Et c'est notre invitée, Florence Maruéjol, auteure de L'Égypte ancienne pour les nuls, qui répond à nos questions sur Néfertiti, la momie qui est clairement en train de la gagner, cette partie de cache-cache, Stéphane.
Bah oui, je vais essayer quand même de retrouver Néfertiti. Est-ce qu'on est certain, Florence Maruéjol, que Néfertiti n'est pas dans le tombeau de Toutankhamon, comme certains, notamment l'archéologue britannique Nicholas Reeves, a tenté de le prouver?
Pour l'instant, on n'a trouvé absolument aucune trace de pièces annexes ou d'une prolongation de la tombe. Et de toute façon, dès le départ, c'était un petit peu étonnant, dans la mesure où il faut quand même se rappeler que Howard Carter, qui est donc le Britannique qui avait fait la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, est resté 10 ans dans la tombe, et que pour démonter le matériel, notamment dans la salle du sarcophage, il était dans toutes les positions, parce que la pièce est assez étroite, et il a vu, je pense, cette tombe centimètre carré par centimètre carré. Donc c'était déjà un petit peu étonnant que Howard Carter, qui était un archéologue exceptionnel, n'ait rien repéré.
Oui. Et Florence Maruéjol, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse selon laquelle Néfertiti serait l'une des momies retrouvées en 1898 dans la tombe du pharaon Amenhotep II, l'arrière-grand-père d'Akhenaton, hypothèse que j'avais d'ailleurs personnellement soutenue à l'époque?
Le souci, en fait, c'est la fiabilité des analyses ADN sur laquelle repose cette hypothèse. Déjà, la méthode qui avait été utilisée pour ces analyses ADN n'est pas la plus fiable. Et ensuite, bon, comme on peut imaginer, hein, l'ADN de ces momies est quand même polluée, puisqu'elles ont été manipulées par de nombreuses personnes depuis leur découverte. Donc l'ADN est à prendre vraiment avec beaucoup de prudence. Voilà, des pincettes, oui, exactement.
Mais Florence Maruéjol, une dernière question sur Néfertiti, qui est une reine égyptienne qui évidemment nous fascine et nous passionne. De quoi est-elle morte? On a parlé d'épidémie, de la peste, on a dit qu'elle était morte en couche ou qu'elle avait été assassinée aussi.
On peut avoir toutes les hypothèses, hein, dans la mesure où on ne possède pas sa momie. On peut continuer à émettre des hypothèses à l'infini dans la mesure où
il n'y a,
rien
y a
dire.
Pas de texte qui le dit.
Non, il n'y a aucun texte.
Aucune représentation non plus visuelle.
Pas de sa mort, non, absolument pas. La seule information, je veux dire, certaine dont on dispose maintenant, on a retrouvé une inscription assez récemment là, dans des carrières qui montre que la reine était encore en vie en l'an 16 du règne d'Akhenaton, sachant qu'Akhenaton lui-même est mort en l'an 17. Donc un an avant la mort d'Akhenaton, Néfertiti était encore en vie. C'est à peu près la seule information fiable qu'on puisse donner en ce qui concerne en fait la fin de Néfertiti. Donc il est possible qu'elle ait survécu à son mari. Il est possible aussi qu'elle soit morte avant son mari. On ne peut pas le dire. Aucune information à ce sujet.
En tout cas, merci. Vous êtes toujours passionnante, Florence Maruéjol.
Merci.
Je rappelle le titre de votre livre, L'Égypte ancienne pour les nuls, aux éditions First. Un livre que vous serez obligé de remettre au goût du jour lorsqu'on saura où est Néfertiti, évidemment.
Je n'y manquerai pas.
On vous réinvitera pour ce scoop.
J'espère qu'on le saura un jour. Ça m'agace quand même pas savoir où
elle est. C'est très agaçant, Stéphane. C'est très agaçant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il y a clairement deux manières d'aborder l'histoire. La classique, hein, l'universitaire, d'aucuns diront la dogmatique. Et puis, il est la manière berne, iconoclaste, mutine, sulfureuse. C'est sûr que c'est pas Alain Decaux qui se serait soudain exclamé au beau milieu d'un récit sur le plus grand peintre du XXe siècle.
Et il est chaud, Picasso.
Justement, elle fait partie des historiennes dites de l'école berne. Clémentine Portier-Keltenbach débarque pour nous entraîner dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, dans l'intimité de Néandertal et Cro-Magnon, car oui, eux aussi se sont bien amusés, Stéphane, bien cachés dans leur grotte. Je peux vous dire qu'on savait s'amuser à l'époque.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
À l'inverse de nos héros du jour, Néfertiti et Michel-Ange, on ne peut plus rien vous cacher. Eh oui, historiquement vôtre, c'est 2 heures pour vous raconter l'histoire, mais sans jamais se la raconter.
Oui, 2 heures également pour tenter de calmer, il faut le dire, les ardeurs de Stéphane Bern, qui, ça a été, et je ne vous cache pas, une sacrée surprise pour moi, il s'intéresse plus aux à-côtés sexuels de l'histoire qu'à l'histoire elle-même. Une obsession malvenue dans une émission aussi classe que la nôtre, en présence d'une historienne si renommée que Clémentine Portier-Keltenbach, qui tente, comme elle peut, de ramener Stéphane vers une forme de retenue, voire d'ascétisme.
Et cet ascétisme absolu, on ne peut l'atteindre que par la castration.
Ah non.
Bon, non. Pour éviter d'en arriver là, on va commencer par le bras de mur. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach.
bonjour. Ouais. Ah, aujourd'hui on célèbre un bel anniversaire, messieurs.
On parle vraiment de sexe aujourd'hui.
Vous allez voir, vos obsessions. Je commence à savoir ce qui vous fait plaisir. Je suis en service commandé ici, monsieur, ça rigole pas.
Hein, vous savez, l'histoire a commencé comment? Par un coup de rein.
qui est le premier de la poule ou de l'œuf.
L'histoire a commencé par un coup de rein.
Mais bien sûr.
Bah alors j'y viens, justement, oui. J'y viens.
À l'époque, elle va nous le raconter.
J'y viens, tout à fait. Parce qu'il y a très exactement 80 ans, le 12 septembre 1940, quatre enfants découvraient la grotte de Lascaux, près du village de Montignac, dans le Périgord noir. Et par chance, hein, l'un des plus grands préhistoriens de l'époque, le père Henri Breuil, était justement réfugié dans cette région, qui était alors en zone libre, et il sera le tout premier spécialiste à visiter Lascaux. Mais pour célébrer avec vous cet anniversaire et commençant, je le disais, à connaître vos obsessions, eh bien j'ai cherché à en savoir plus sur l'intimité de l'homme de Cro-Magnon. Et je suis littéralement tombée de l'armoire en découvrant la quantité de livres, d'articles et de sites liés à cette thématique. Moi, j'imaginais qu'on ne savait pas grand-chose de la vie sexuelle des Néandertaliens. Ben oui, ben si. Je ne savais pas qu'ils avaient laissé des fresques érotiques incroyables, apportant la preuve irréfutable que la sexualité liée au plaisir, et non à la seule nécessité de la reproduction, était déjà chose courante lorsque l'Homo sapiens est arrivé en Europe au Paléolithique supérieur. Alors, les garçons, en juger, par ces fresques très explicites, certaines pratiques du Kama Sutra avaient probablement déjà été expérimentées entre 35 000 et 10 000 ans avant notre ère.
C'est quoi ces pratiques ?
Eh oui, ah bah ce n'est pas moi. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le très sérieux préhistorien espagnol Marco García Diez, commissaire d'une exposition présentée en 2017 sous le titre Sexo en Piedra. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire Sexo en Piedra ?
Le sexe dans la pierre.
Sexe en pierre, tout à fait. Voilà. Car il se trouve que le gisement archéologique d'Atapuerca au nord de l'espace, c'est l'un des plus importants d'Europe, il possède des plaques gravées, dignes des plus torrides estampes japonaises. C'est extraordinaire. Alors en France, rassurez-vous, pays où est née la gauloiserie tout de même, nous avons également notre grotte classée X, la grotte de la Marche près de Poitiers, qui possède elle aussi une superbe scène érotique datant d'environ 14 000 ans avant notre ère. Bon. Alors, la question, bien sûr, qui vous vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que vous n'en avez jamais entendu parler ?
Mais oui !
Mais oui ! C'est justement parce que pendant des décennies, la société était bien trop pudibonde pour autoriser les paléontologues à faire publiquement état de la crudité de leurs découvertes. Et justement, le père Breuil, dont je vous parlais à l'instant, quand il envoie la nouvelle de sa découverte à Lascaux, dans la grotte de Lascaux, il y a un hominidé, c'est un homme en érection, et bien le père Breuil, il envoie à l'académie le dessin sur lequel il a effacé le sexe du bonhomme. Vous vous rendez compte, on en était là. Bon, alors, j'ai aussi retenu de mes lectures un test bien intéressant auquel je souhaite vous soumettre, messieurs. Alors, sachez qu'en étudiant les fossiles des phalanges d'Australopithèque et d'Homo sapiens, on a constaté que leur taux de testostérone était bien plus élevé que celui de l'homme moderne, ce qui est une indication du caractère plus ou moins primitif et agressif de leur sexualité. Ils avaient un annulaire bien plus long que l'index, ce qui est le signe d'un taux très important de testostérone. Donc, messieurs, allez-y, prenez quelques secondes pour examiner vos doigts.
Le majeur est plus long. Oui,
bah, moi, voilà. C'est comme
alors,
Stéphane.
Si votre annulaire...
Pas beaucoup de testostérone chez Stéphane et moi.
C'est ça, je le crains. Si votre annulaire n'est pas plus long que votre index, c'est que vous n'êtes pas un homme préhistorique soumis servilement à ses sens enfiévrés. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, quand même, plutôt. Alors, en gros, l'auteur de cet article conclut que l'homme de Néandertal, bourré de testostérone, était polygame. Dès qu'il voyait une femme, il lui sautait dessus. Alors que l'homo sapiens, lui, devient monogame. Et c'est à cette période que le cerveau se développe. On peut donc clairement en déduire que c'est le sexe monogame qui a permis de faire de nous, des êtres intelligents. Et voilà, ça fait donc 40 000 ans que les hommes essaient d'associer harmonieusement intelligence et testostérone. Et j'ai le résultat sous les yeux, messieurs, dames, Stéphane et Mathieu, deux homo sapiens à la fois virils et parfaitement polissés.
Oui, moi j'ai des poils quand même, hein. J'ai pas le majeur.
Moi aussi,
vous avez vous aussi.
Je ne veux pas le savoir.
Merci beaucoup.
Maintenant je vais regarder les gens autrement, hein, pour voir s'ils ont l'annulaire plus grand que l'annexe.
Quand vous baiserez la main.
Je ne baisse pas les mains.
Au moment du baisement. Comment vous faites le baisement? Souvent là, dans vos milieux, vous faites le baisement.
On ne se touche plus. Et je vous assure, le baisement se fait à des dames, pas.
Oui, uniquement. Oui, c'est vrai.
Pas dans la rue.
Sauf si vous étiez souverain à l'époque. Au Portugal, en Espagne, on avait le beijo à chemange qui était le.
Mais c'est ça, Stéphane, mais on devrait faire un quiz sur la galanterie et les pratiques aristocratiques.
Je ne sais pas comment faire à Mathieu. Puisque le signe d'allégeance au roi du Maroc, c'est de lui baiser la main et le bas de la.
Le bas de la
gandoura.
C'est quoi la gandoura? Qu'est-ce que la grande aura? Vous le saurez dans un prochain épisode, mais réservé aux plus de 18 ans.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous embarque chaque après-midi dans une virée folle à travers les siècles. Chaque fois, trois personnages, un point commun. Aujourd'hui, c'était tous des as du cache-cache. Nefertiti, Michel-Ange, Carlos Ghosn. Hélas, pour Stéphane Bern, il y a un moment plus douloureux pour lui dans l'émission.
Ah oui, c'est quoi?
C'est le moment du quiz qui s'appelle Bern to be alive et où on vérifie vos compétences en histoire, Stéphane.
Oui, vous vous souvenez, vendredi, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, je prendrais la main.
C'est une parole en l'air, ça, Stéphane.
Non, mais pour voir, vous comprenez, c'est facile, parce que vous me faites passer pour une brêle, c'est très sympathique.
J'aurais pas utilisé ce mot-là, Stéphane.
En réalité, vos questions sont perverses. Oui. Et donc, nous allons les tester sur vous.
C'est vous qui prenez la main aujourd'hui?
Oui, je prends la main.
Quel
coquin. Je vais vous poser des questions.
Alors là, vous pouvez y aller. Vous savez, vous vous rappelez combien j'ai eu en histoire au bac?
Oui, mais peu importe.
Oui, mais je vous le redis, parce que l'auditeur n'était pas là peut-être pour l'entendre. 17. Alors, 17. Allez-y, posez-moi des questions, mais bien historiques.
Parfait.
Et alors, je suis opposé à Clémentine. Vous ne savez pas faire un quiz. Je suis opposé à Clémentine Portier-Kaltenbach, éminente historienne.
Absolument. Mathieu, est-ce que l'écrivain et historien Max Gallo aurait pu rencontrer la Goulue, vous savez, la pétillante icône du Moulin Rouge, danseuse du French Cancan immortalisée par Toulouse-Lautrec? Oui ou non?
Il a fait plus que la rencontrer, il l'a connue bibliquement. Non, je ne sais pas, mais voyons voir. La Goulue, oui, bon, écoutez, moi je dirais oui, je le verrais bien.
Eh ben c'est planté.
Oh non, il m'a piégé, elle est morte quand la Goulue?
Louise Weber, dite la Goulue, est décédée en 1929, dans la plus grande misère, mais ça c'est... Voilà. Alors que Max Gallo, lui, est né en 1932.
Et voilà.
Oh, ça s'est joué vraiment à peu de choses, excusez-moi.
Ah, ça, c'est exactement ce que vous faites à chaque fois.
C'est dégueulasse. Mais qui a préparé ce quiz? Non, ça c'est pas réglementaire. Bon, posez quand même la question à Clémentine.
Clémentine. Depuis Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à Charles de Gaulle, tous les présidents de la République avaient une moustache ou une barbe, voire... une barbe et une moustache. Vrai ou faux?
Jusqu'à De Gaulle, c'est ça? Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à De Gaulle. Je pense que c'est vrai.
Réponse.
Vous avez perdu.
Oh, qui n'a pas
vous êtes nul, Clémentine.
Qui n'a pas eu la barbe ou la moustache?
René Coty.
Il n'avait pas une petite moustache comme De Gaulle, comme ça?
Non,
René c'est marrant, moi je le vois
et
avec une moustache.
Je me demande même, il y avait également Adolphe Thiers qui était glabre.
Ah, mais oui, il n'avait pas la moustache.
Vincent Auriol avait quelque chose.
Oh, il me semble qu'il est moustachu.
En tout cas, René Coty, Adolphe Thiers.
En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que Clémentine a une mauvaise réponse.
Vous avez raison.
Vous avez aussi zéro partout.
Ah, ça y est, vous prenez un plaisir sadique.
Je comprends votre plaisir sadique.
Oh, dis donc, et moi, je pourrais un jour vous faire le quiz à tous les deux.
Je pense que ça va venir assez vite, Clémentine. Alors, moi, une autre question. Donnez-moi ma question.
Bonaparte avait un carlin.
Oui.
Il s'appelait Milou.
Ah non.
Vrai ou faux?
Un carlin qui s'appelait Milou? C'est quoi un carlin?
Un carlin, c'est
chien.
Un pug.
Ah non,
c'est un carleur.
Non, un carlin. C'est pug. Chien. En anglais, on dit pug. C'est les chiens qu'avait la duchesse de Windsor, vous voyez?
Oui, elle en a perdu un, là, qui était mort piqué par une vipère.
Alors, le carlin qui s'appelait Milou.
Je vous aide, Mathieu. C'est
des chiens qui étaient très répandus.
Mais qui ne sait pas ça, Stéphane? Évidemment, il avait un carlin qui s'appelait Milou.
Tout à fait.
Chers auditeurs, nous allons entendre la réponse.
Vous avez perdu.
Oh, mais c'est faux. Il avait un carlin qui s'appelait Milou. On l'a raconté pendant la campagne d'Égypte.
Ah bah vérifiez si Clémentine le dit.
C'est Joséphine qui avait un carlin.
Oh, il s'appelait Fortuné. Mais en Égypte, Bonaparte a eu un carlin.
Non, c'était un fox terrier, madame.
C'était pas un carlin.
C'était un fox terrier comme le Milou de Tintin.
Là, tu es en train de me dire que la réponse était qu'il avait un carlin qui s'appelait Milou.
Enfin, il avait un fox terrier qui s'appelait Milou.
Et j'ai pas les points, là?
Non.
Mais c'est scandaleux.
C'est scandaleux.
C'est ça, il vous a planté sur la race du chien.
N'importe quoi de ce quiz, Stéphane.
Est-ce que c'est moi qui fais les questions?
C'est injuste, non, c'est vrai.
Voilà.
Bon, donc zéro point. D'accord, j'encaisse.
Eh bien, maintenant, question à Clémentine. On connaît tous Vauban, évidemment. Ingénieur, architecte, militaire, essayiste. Il sera maréchal de France par Louis XIV. Il a d'ailleurs donné son nom aux barrières de police quand nos amis des forces de l'ordre doivent barrer l'accès d'une rue. À 30 euros près, combien coûte une barrière Vauban en acier galvanisé de 2 mètres et 14 barreaux?
Oui.
Mais quelle est la question, Stéphane? Parce que normalement, dans un quiz, à un moment, il y a une question.
Ça, c'est une question d'histoire.
Oui, mais c'est comme toutes les questions que pose Mathieu.
Alors,
à 30 euros
je les pose un peu mieux,
combien
là.
Coûte une Vauban, qui est une barrière en acier galvanisé de 2 mètres et de 14 barreaux?
Oh, c'est quand même, ça doit être quand même assez cher. Moi, je dirais que ça coûte... je dirais 200 euros.
Et là, vous êtes à 40 euros près, c'est 160 euros.
160 euros la barrière?
Oui.
Oui, ça va, c'est pas
et
si cher.
Si vous voulez en savoir plus, ce soir, il y a Secret d'Histoire sur Vauban.
À l'occasion pour moi, d'ailleurs, de vous dire, si vous êtes incollable sur Vauban, tous devant France 3 ce soir, et tous les lundis à 21h05, c'est Secret d'Histoire, présenté par un certain Stéphane Bern.
Ah oui, c'est moi.
C'est en partenariat avec une radio qui s'appelle Europe 1, et ce soir, c'est un spécial Vauban, comme tout ceci est bien fait.
C'est formidable.
Tout est pensé.
Vous faites très bien les pubs.
Merci.
Alors, arrêtez de vous disperser parce que maintenant, c'est quand même. Je veux vous montrer que vous aurez 0-0 tous les deux.
Non, je vais redorer mon blason maintenant. Allez-y, envoyez la question comme
pour tous les deux. Ruth Ensinger vivait en Pennsylvanie.
Là, vous avez dit Jute quoi? J'ai pas compris.
Ruth.
Ruth.
Ruth quoi? Ruth Ensinger vivait en Pennsylvanie. Elle s'est mariée en 1947 après la Seconde Guerre mondiale et son mari Claude était ancien combattant. Pourquoi leur mariage a été aussi spécial? Trois propositions. 1. Sa robe de mariée a été faite avec le parachute de son époux. 2. Les premiers rangs étaient faits d'obus vidés parce que Claude était dans le bombardement. 3. Trois anciens soldats allemands sont venus après avoir fraternisé avec lui.
Oh, c'est beau comme histoire.
Le parachute.
Oh, j'aime bien le parachute, mais j'aime bien cette histoire de trois Allemands qui seraient venus. Ah, moi, je vais répondre la dernière.
La dernière. Eh bien, c'est Mathieu qui marque le point.
Et
oui, bien sûr, la robe en parachute.
Allez, là, c'est moi qui reprends la main, c'est mon coup.
Ah non,
je gagne un zéro puisque toutes les autres réponses étaient mauvaises. Donc, vous vouliez me piéger, eh bien, je vous ai montré, mon cher Stéphane Bern, comment on gagne un quiz.
Europe 1, historiquement vôtre.
Séquence toujours délicate que celle du quiz. On imagine le lendemain l'embarras des techniciens sur le tournage de Secret d'Histoire. Vu Bern, en fait, il y connaît rien. Chut, il arrive. Bref, j'espère, Stéphane, que vos performances dans cette émission n'ont pas trop d'impact sur les autres que vous présentez.
Dites donc.
Vous êtes super fort en histoire, je déconne évidemment. Et vous annoncez aussi super bien le programme, Stéphane, je trouve.
Oui, c'est mon côté ouvreuse. Je ne vous le cache pas. Et eux se cachent depuis le début de l'émission. Après Nefertiti et sa momie, toujours bien planquée, je vous raconterai l'histoire du peintre Michel-Ange qui s'est caché dans une cave à Florence pour fuir les Médicis. Et peindre aussi.
Une cave? Petit joueur, le mien s'est caché dans une malle, ah oui. Pour mon troisième personnage du jour, plus contemporain, j'ai choisi de vous raconter la fabuleuse histoire de Carlos Ghosn. Faites comme lui, ne bougez pas.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire, mais sans jamais se la raconter. Notre thème du jour, les as du cache-cache. Après Nefertiti, dans cette deuxième heure, je vais vous parler de Michel-Ange.
Parce que Michel-Ange aimait jouer à cache-cache, Stéphane? Dans la Chapelle Sixtine, peut-être? Qu'est-ce que vous racontez?
Non, Mathieu. Mais le célèbre peintre italien aurait passé plusieurs semaines caché dans une cave pour fuir les Médicis qui voulaient lui faire la peau. Et pendant ce temps-là, imaginez-vous, il a peint. Pour passer le temps.
Nefertiti, Michel-Ange. Pour être tout à fait complet sur les as du cache-cache dans l'histoire, il nous fallait évoquer un troisième personnage plus proche de nous, un champion hors catégorie du cache-cache, Carlos Ghosn. Ex-patron déchu de Renault-Nissan, devenu en une nuit le Houdini du cylindre, le David Copperfield du joint de culasse. Comment a-t-il fait pour s'évader de sa résidence surveillée au Japon, prendre le train puis s'envoler dans une malle direction le Liban? Malle dont il serait sorti triomphal en hurlant
« Banzai, banzai !»
Vous le saurez vers la fin de cette émission, dans 99% vrai, mon portrait presque entièrement vérifié.
Oui, on verra. Et au programme de cette deuxième heure également, pour comprendre toujours en s'amusant comment le passé éclaire notre présent. Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, nous raconte l'histoire des recettes et de la cuisine. Et aujourd'hui, eh bien, on va remonter aux origines de la salade niçoise. Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi on dit l'argent liquide.
Ouais, je ne sais pas pourquoi on le dit, d'ailleurs, je m'en fous. Mais tu me dois 10 balles, Stéphane, tu vas penser à me les rendre. Et liquide.
En liquide.
Ah oui, cache-cache.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de deux heures d'histoire décomplexée et décomplexante. Historiquement Vôtre s'intéresse cet après-midi aux as du cache-cache. Après Nefertiti, qui s'est tellement bien cachée qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe, voici maintenant l'histoire d'un génie dont, comme Stéphane Bern, on retiendra ses chefs-d'œuvre.
Et son goût de la débauche.
Oui, oh, aussi. Voici l'histoire peu connue du cache-cache de Michel-Ange.
Historiquement Vôtre. Le récit.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas de trouver le lieu de sa sépulture. Non, on sait parfaitement où repose le grand Michel-Ange, génie de la Renaissance italienne, sculpteur virtuose, peintre de l'époustouflante chapelle Sixtine et architecte de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Oui, il est enterré dans la basilique Santa Croce à Florence, auprès d'autres personnalités florentines et italiennes comme Dante, Galilée et Machiavel. Non, notre seconde histoire porte sur un épisode assez méconnu de la vie de Michel-Ange. Cet épisode, vous allez le voir, est digne d'une fiction. Il implique un pape et la puissante famille des Médicis. Une révolte, une cavale et surtout un trésor caché pendant des siècles dans une cave de Florence. De l'œuvre de Michel-Ange à Florence, on connaît son David, sculpture mythique, l'une des plus célèbres au monde. Les plus initiés connaissent également les allégories monumentales de la Sacrezia Nuova, la Sacrezia Nuova,
oui, plutôt.
La Sacrezia Nuova, la Sacristie Neuve, mais vous n'aimez pas mon italien, élaborée par Michel-Ange dans le complexe des chapelles Médicis et de la basilique San Lorenzo. Mais ce que les touristes connaissent moins, c'est un autre trésor. Caché dans une chambre située sous la Sagrestia Nuova, une chambre découverte par hasard en 1975 sous une trappe en forme de porte, dissimulée dans un réduit situé derrière la sacristie. À l'époque, le directeur des chapelles des Médicis, Paolo dal Poghetto, n'imagine pas un instant ce qu'il va découvrir. D'ailleurs, quand des ouvriers entrent pour la première fois dans cette cave humide, plus longue que large et d'à peine 7 mètres sur 3, ils n'y trouvent qu'un simple espace encombré de détritus au mur, recouvert de suie et de boue. On sait que cet espace servit longtemps de cave à charbon et qu'il fut inondé lors de la crue historique de l'Arno en 1966. Mais très vite, le nettoyage de la pièce va mettre au jour des sortes de gribouillis cachés sous des couches de saleté et de peinture. Les couches de peinture et de plâtre qui recouvrent les esquisses sont enlevées petit à petit. Alors apparaissent des dizaines de dessins au fusain, miraculeusement épargnés par les siècles. Ils recouvrent entièrement les murs de la pièce jusque sous la voûte. C'est un carnet de dessins grandeur nature. Très vite, Dal Poghetto et les experts dont ils s'entourent y reconnaissent des scènes, des figures expressives, des éléments anatomiques, une manière saillante de dessiner la musculature, une puissance de suggestion qui font penser à l'œuvre de Michel-Ange. Le dessin d'un doigt rappelle de manière frappante, vous savez, l'une des fresques les plus célèbres de la chapelle Sixtine du Vatican, celle où Dieu, le doigt tendu vers Adam, lui accorde le don de la vie. Un pied rappelle le David de Michel-Ange. Certains dessins rappellent même des œuvres que le directeur des chapelles des Médicis connaît par cœur. Elles se trouvent juste au-dessus de la chambre, dans la sacristie neuve, comme par exemple le dessin d'une statue de marbre décorant la tombe de Julien de Médicis. Mais alors, ces esquisses à même le mur peuvent-elles être de la main de Michel-Ange lui-même ?
Ou d'un fan, peut-être.
Et quand les aurait-il produites ? La théorie qui prédomine, c'est qu'au moins une partie de ses œuvres aurait été réalisée par l'artiste en 1530 lors d'un épisode sombre de son histoire et de celle de la ville de Florence. On sait de la bouche des premiers biographes de Michel-Ange, Vasari et Condivi, que cette année-là, alors traqué par les Médicis, il aurait trouvé refuge plusieurs semaines chez un ami. Cet ami, ce serait le prieur de l'église San Lorenzo. Et ce refuge, c'est notre fameuse cave. Mais au fait, pourquoi se cachait-il des Médicis, ces mécènes de longue date ? C'est ce que vous allez me demander, Mathieu.
Mais d'ailleurs, je vous le demande, Stéphane.
Eh bien, la raison de leur mésentente, c'est que Michel-Ange, fervent républicain, a participé à la Seconde République de Florence. Vous savez, une période de révolte qui chasse entre 1527 et 1529 la puissante famille des Médicis hors de la ville de Florence. Mais cette éviction ne va pas durer longtemps. Grâce au soutien du pape Clément VII, alias Jules de Médicis, et oui, c'est un membre de la famille, ils reprennent l'année suivante les rênes de la ville. Dans un contexte compliqué, alors que la peste et la famine font rage à Florence, Michel-Ange est traqué. Il craint pour sa vie et doit se cacher.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quand je pense qu'on stresse avec le Covid alors que ce pauvre Michel-Ange a dû gérer la peste, la famine et cet arrêt de Médicis, comment tout cela va-t-il se terminer? Michel-Ange va-t-il se bonifier en cave comme un vieux Bourgogne? Stéphane Bern nous raconte ça dans un instant.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre continue chaque jour. Trois personnages hauts en couleur et une thématique. Aujourd'hui, les as du cache-cache. Parmi eux, un certain Michel-Ange qui, pour fuir les Médicis, se retrouve contraint à un moment de sa vie de se cacher dans une cave.
Oui, Michel-Ange se cache dans cette cave depuis laquelle il peut guetter les mouvements de la rue par les lucarnes. 6 semaines, 3 mois, la durée diffère. Et les conditions de sa survie restent un mystère. Quoi qu'il en soit, la traque ne dure pas très longtemps. Michel-Ange obtient rapidement le pardon du pape Clément VII, sûrement parce qu'il était avec Léonard, l'un des plus grands artistes de son époque. Les Médicis étaient bien placés pour le savoir et n'avaient peut-être pas envie de se passer de ses services. Reste encore une question. Est-on sûr de la paternité des dessins de cette chambre secrète? Eh bien, difficile sans signature d'affirmer avec certitude qu'ils sont de Michel-Ange. Mais il existe bien un consensus des experts sur le sujet. Oui, ses œuvres seraient bien celles de Michel-Ange Buonarroti. Toutefois, certains spécialistes restent sceptiques quant aux circonstances de la réalisation de ces esquisses. C'est le cas par exemple du professeur américain William Wallace, une autorité sur Michel-Ange. Pour lui, il n'est pas vraisemblable de penser que le grand Michel-Ange, véritable artiste star à son époque, ait pu passer des semaines enfermé dans cette pièce exiguë. Il se serait caché ailleurs, chez l'un de ses nombreux mécènes. Wallace pense que ses dessins dateraient d'une période antérieure, entre 1520 et 1527, pendant que Michel-Ange dirigeait des travaux dans la sacristie juste au-dessus. D'ailleurs, cette hypothèse expliquerait pourquoi certains des croquis de la chambre secrète sont jugés plus amateurs que d'autres.
C'est ce que je vous disais, Stéphane, oui, tout à l'heure. C'était mon hypothèse, hein. Je tiens à le souligner.
Non, mais parce que vous avez lu mon texte. Certaines des esquisses pourraient avoir été réalisées par des ouvriers ou des commis de Michel-Ange, voulant se faire la main. Quoi qu'il en soit, la découverte de cette pièce en 1975 est considérée à juste titre comme l'une des découvertes artistiques majeures du XXe siècle.
Est-ce qu'on peut la visiter aujourd'hui, cette cave, ou pas, pour se faire sa propre idée?
Malheureusement, Mathieu, elle n'est toujours pas accessible au public, mais elle pourrait l'être bientôt. En 2017, la directrice du Musée national du Bargello de Florence avait annoncé son ouverture probable en 2020. Nous y sommes. Mais la crise de Covid-19 semble avoir retardé cette échéance. On verra bien. Mais on verra, je l'espère en tout cas.
J'espère. On ira ensemble, Stéphane.
Si vous voulez.
Dans cette cave.
On jouera à cache-cache.
On jouera à cache-cache.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler de ce cache-cache étonnant, nous sommes en ligne avec Serge Lega. Bonjour Serge.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Avec cette histoire assez dingue que Stéphane vient de nous raconter et que beaucoup découvrent, moi le premier, Michel-Ange, en plus de son art, est aussi passé maître dans l'art du cache-cache. Est-ce que vous y croyez cette histoire? Est-ce que c'est vraiment lui qui s'était réfugié dans cette cave?
Moi j'y crois totalement, ouais. Surtout que j'ai eu alors la grande chance de visiter cette cave dans les années 90, j'avais eu cette autorisation, et c'est vrai que quand on découvre ces dessins monumentaux sur les murs, même si, comme Stéphane vient de le préciser, il y a des différences de qualité, il est certain qu'il y a vraiment eu une œuvre qui est une œuvre forte et qui rappelle le talent de Michel-Ange. Et en plus, cet endroit correspond tout à fait à ce sens du cache-cache dont vous parlez aujourd'hui, puisque Michel-Ange est un personnage qui lui-même, d'ailleurs, est un être qui se cache. Michel-Ange est un homme introverti, replié sur lui-même, colérique, et un personnage en plus qui peut très très bien se cacher, puisque c'est quelqu'un qui avait l'habitude de se nourrir de façon très frugale, de s'habiller quasiment d'une façon miséreuse, et c'est un personnage qui se cachait par rapport aux autres, donc le cache-cache en est totalement dans le sujet.
Oui. Mais enfin, on connaît mal ses conditions de survie dans cette cave qui est donc située sous la sacristie neuve. On dit 6 semaines, 3 mois. Comment il survivait? Il mangeait quoi? Même si, comme vous le dites, Serge, il se nourrissait de peu.
On pense que de toute façon, il y a les protections qui sont celles de Michel-Ange. Vous avez parlé tout à l'heure du prieur de San Lorenzo, Giovanni Battista Figiovanni, qui est un personnage qui soutient Michel-Ange. Donc on peut penser déjà que le prieur et les personnages autour de lui apportent de la nourriture. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont proches de Michel-Ange. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à Florence, les Médicis n'ont pas que des amis. Donc il est certain que des familles qui sont les familles opposées aux Médicis ont plutôt tendance à vouloir aider Michel-Ange. Par exemple, il y a la famille Martelli qui a comme par hasard son palais très très proche de San Lorenzo. Et on peut penser que Michel-Ange arrivait peut-être à rejoindre le palais Martelli de sa cache dans laquelle il était, puisqu'on a découvert dans l'église, dans la basilique San Lorenzo, une porte dérobée qui donne sur un couloir secret. Et aux merveilles, ce couloir secret débouche dans la cour du palais Martelli. Donc Michel-Ange pouvait s'en sortir, passer de la basilique au palais Martelli, où là, il pouvait peut-être trouver des aides et entre autres de la nourriture.
Bon, on va tenter de comprendre pourquoi Michel-Ange se cachait là. On continue de parler des As du cache-cache qui sont les héros de notre émission du jour. Et de Michel-Ange en particulier, dont on sait bien qu'il était caché dans le placard, avec notre invité Serge Le Gat sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Lui, contrairement à Michel-Ange, n'est pas caché dans une cave ou alors il a une très bonne connexion 4G. Serge Le Gat, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, avec nous cet après-midi pour parler de Michel-Ange et notamment de cette période où, durant plusieurs semaines en tout cas, à 1530 à Florence, Michel-Ange s'est caché pour fuir les Médicis et peut-être pour peindre aussi.
Mais oui, parce que ses dessins au fusain, Serge Le Gat, qui étaient découverts sur le mur de cette cave, est-ce que, selon vous, ils étaient de la main de Michel-Ange ou est-ce que c'était des commis, des assistants? Il y a certains, disent les spécialistes, qui avaient l'air d'être des dessins d'amateurs. Vous en pensez quoi, vous ?
Effectivement, je pense qu'il y a une vraie différence de qualité suivant les dessins. Il y a des dessins qui sont des dessins assez classiques, assez scolaires, qui pourraient être des dessins d'élèves, voire d'ouvriers travaillant à un moment dans cette cave. Mais il y en a d'autres qui sont exceptionnels de qualité. Entre autres, moi j'ai le souvenir d'une partie du corps de Julien de Médicis, le duc de Nemours, dont le tombeau est à l'intérieur de la sacristie nouvelle. Et c'est vrai qu'on a une partie du corps de Julien de Médicis qui est dessiné sur le mur, et c'est d'une puissance, d'une force. Le traitement de la musculature est admirablement rendu. Là, on est vraiment devant une œuvre qui est une œuvre de grande qualité et pas celle simplement d'un apprenti. Donc on peut penser qu'il y a et Michel-Ange et les élèves qui ont travaillé aussi.
Mais alors, il peignait là, ou il dessinait, disons, dans cette cave pour passer le temps, ou est-ce que c'était en quelque sorte l'esquisse de ce qu'il allait réaliser plus tard ?
Alors, c'est assez exceptionnel parce qu'au fond, c'est une sorte de mise en abîme de la vie de Michel-Ange à ce moment-là. Il faut quand même penser à une chose. Quand Michel-Ange est dans cette cache, il a 55 ans, ce qui, à l'époque, est un âge déjà tout à fait avancé, pour ne pas dire canonique. Et c'est vrai que cet homme, eh bien, sur les murs, dessine des œuvres comme, justement, la statue de Julien de Médicis, sur laquelle il était en train de travailler au moment où il a dû se cacher. Et puis, des œuvres beaucoup plus anciennes. Vous en avez parlé, Stéphane. Il y a une reprise de motifs de la chapelle Sixtine. Il y a des reprises d'œuvres antérieures. On pourrait presque dire que Michel-Ange fait une sorte de catalogue de son œuvre passée, de son œuvre présente, et peut-être aussi des projets qui seraient les projets, si tout s'arrange pour lui, qu'il pourra réaliser
Serge Le Gat,
au moment de sa libération.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre que quelqu'un qui est une star, quand même Michel-Ange à l'époque, même s'il doit se cacher un moment, il le fasse dans un endroit si exigu, quelque part une cave, enfin, c'est quand même un peu bizarre. C'est pour ça que certains disent que ce n'était pas lui.
Il faut quand même penser à une chose, c'est que Michel-Ange se cache parce qu'il est quand même en danger de mort. La condamnation n'est pas légère. Cette trahison, entre guillemets, par rapport aux Médicis est quelque chose qui est lourd. Donc Michel-Ange sait que sa vie est en danger. Il se cache donc dans un endroit où, a priori, il se sent à l'abri. C'est aussi ce qui correspond à Michel-Ange. À la fin de sa vie, il finira dans un atelier qui était un atelier relativement sordide à Rome. Il finira sa vie dans des conditions volontairement extrêmement peu luxueuse, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, en tout cas, vous racontez cette histoire merveilleusement bien. Merci Serge Le Gat de nous avoir éclairé sur cette folle histoire de la cave dans laquelle s'est réfugié Michel-Ange pour échapper à la vindicte des Médicis.
Et
merci
de
beaucoup.
Alexandre le Retors.
Oui, il était tordu.
Tortue.
Ça vous plaît les gens tordus?
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quel voyage vous nous avez encore offert, Stéphane ? À la recherche de la tombe de Néfertiti, qu'on n'a pas trouvée d'ailleurs. Puis, dans cette cave humide où se terrait Michel-Ange pour échapper aux méchants Médicis. C'était trépidant, mais vous le savez Stéphane, puisque nous avons conçu cette émission ensemble, historiquement vôtre, c'est deux heures d'histoire ancienne, de mythes, de légendes, de rois, de reines, mais aussi bien sûr...
De consanguinité.
Non, Stéphane, pas que le temps, de modernité. Oui. Retenez bien ce mot. Dans cette dernière demi-heure, nous tendons des passerelles entre hier et aujourd'hui pour comprendre l'origine d'un mot, d'une expression qu'on emploie sans savoir d'où elle vient, ou l'origine d'une recette, d'un plat qu'on aime sans connaître les circonstances dans lesquelles il a été créé.
Oui, d'ailleurs, cet après-midi, on va apprendre l'histoire de la salade niçoise.
Ne me dites pas qu'elle vient pas de Nice.
Dieu seul le sait, enfin, le dieu de la bouffe.
Ah.
Olivier Pouls. Et je vous raconterai pourquoi on parle de, à propos de cash, on parle d'argent liquide. Enfin Mathieu, si c'est un effet de votre bonté, surtout si cette hypothétique bonté existe dans votre cœur, vous nous brosserez le portrait de notre troisième personnage du jour, évidemment plus contemporain que les deux premiers que je vous ai racontés.
Oui, mais tout aussi farceur, hein. En tout cas aussi doué pour trouver des cachettes. Je vous parle aujourd'hui de Carlos Ghosn, l'ancien grand ponte de l'automobile devenu contorsionniste au Japon.
Si vous pouviez faire levier sur le boîtier, je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt, voyez-vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans notre spécial Les As du cache-cache, il vous revient Mathieu de nous brosser le portrait d'un personnage plus contemporain que Néfertiti et Michel-Ange, un portrait 99% vrai comme d'habitude.
Hein. Oui Stéphane, et je commencerai par vous poser une question, croyez-vous en l'astrologie ?
Ah oui, oui, j'y crois.
Oui, moi je vous pose la question parce que, comme vous croyez en une malédiction proférée par un moine templier à l'égard des Bourbons sur 13 générations, je me dis que tout est possible, et bien je n'avais pas tort. Vous croyez en l'astrologie ? Eh bien, mon personnage du jour, Carlos Ghosn, est la preuve vivante que l'astrologie est une vaste fumisterie,
ah
Stéphane.
Bon ?
Et en effet,
pourquoi ?
Il est poisson, Carlos Ghosn. Or, je cite le lexique astrologique officiel du site journaldesfemmes.fr. Poisson, attaché à ses repères, frileux, peu voyageur, tendre, social et satisfait des plaisirs simples et modestes que la vie a à lui offrir. Raté, je vous présente Carlos Ghosn, le cost killer, sauf concernant son propre salaire, qui régna sur Renault-Nissan pendant 14 ans. Oui, la musique de Lully est un clin d'œil malicieux à cette soirée costumée que Carlos donna au château de Versailles en 2014 pour fêter officiellement les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, officieusement ses 60 ans à lui. Soirée dispendieuse s'il en est, aux frais du groupe, un invité témoigne sous le sceau de l'anonymat.
L'impression de se retrouver au temps de Louis XV.
Putain, vous êtes partout, hein, dans tous les bons coups Stéphane.
Bref, j'y étais pas.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de ce chef d'entreprise qui a su conserver son âme d'enfant et pratiquer le cache-cache jusqu'à un âge avancé. Son astuce la plus célèbre, nous le verrons, échapper à l'aéroport au coûteux supplément surpoids bagages cabine en voyageant lui-même dans une malle. Carlos Ghosn, né en 1954 au Brésil, n'a pas toujours ressemblé à ce mélange à la fois dérangeant et cocasse de Mr Bean et Gargamel. Non Stéphane, selon des sources proches du dossier, avant de fermer des usines par dizaines et de virer des ouvriers à tour de bras, il aurait d'abord été un enfant. Un enfant ballotté entre le Brésil, le Liban, puis la France. Brillant élève, il intègre Polytechnique à 20 ans, puis il fait l'école des mines. Alors, à quel moment tu te tapes encore l'école des mines quand t'as déjà fait Polytechnique ? Je ne sais pas. Carlos entame sa carrière professionnelle en 78 chez Michelin au Puy-en-Velay. Car, dira-t-il, il faut bien commencer quelque part. Mais très vite, heureusement j'en pouvais plus des lentilles, déclara Carlos, il repart à Rio, où il prend la direction de Michelin Brésil. Oui, c'est comme ça que j'imagine l'ambiance de travail chez Michelin Brésil. Et, cela dit, les employés, eux, ne vont pas danser la samba longtemps. Carlos impose une restructuration sévère qui nécessite la fermeture de deux usines et une réduction des effectifs. Socialement, c'est moche, mais économiquement, même un anarcho-syndicaliste comme vous, Stéphane, doit le reconnaître, ça marche. Michelin Brésil voit son chiffre d'affaires décoller. Constatant l'efficacité de ses pratiques altruistes, Carlos va continuer sur sa lancée chez Renault à partir de 1996. Renault est alors très mal en point. Oui, alors, oui, non, pas aussi mal en point que ce Renault-là, mais mal en point quand même. Ses méthodes font merveille. Le tueur de coups devient une star parmi les patrons, dont il fait partie des mieux payés au monde. 13 millions d'euros de salaire annuel en 2017, wow. Un chiffre qui suscitera de vives réactions. Scandaleux pour l'UMA, indécent pour l'IB. Ouais, bof, c'est pas trop mal payé, mais rien de dingue non plus pour Stéphane Bern.
Non, c'est
2018.
Chose à scandaleux, monsieur.
Le roi Carlos règne sur Renault-Nissan. Les Japonais qui peuvent lire ses aventures sous forme de manga chaque matin dans le métro l'adulent. Quand soudain, le groupe Nissan le soupçonne d'abus de biens sociaux et d'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles, notamment afin de rénover ses villas aux Pays-Bas, en France, au Liban et au Brésil. Comment ? Carlos ? Abusé ? Un type au goût si simple, si peu bling-bling, si minimaliste dans ses goûts déco. Non, ça doit être une erreur. Ou de la phobie administrative. En effet, selon le fisc, Carlos se serait un peu planté sur sa dernière déclaration. Il aurait oublié de déclarer 30 millions entre 2010 et 2015. À sa décharge, Stéphane, faut dire que la plateforme impogouv.fr n'est pas hyper bien foutue non plus, surtout quand on passe par Safari, si je peux me permettre. Peu sensible à cet argument, voire disons-le carrément sans cœur, les autorités japonaises procèdent à l'arrestation de Carlos le 19 novembre 2018 à la sortie de son jet privé. Carlos est libéré sous caution le 5 mars 2019 et assigné à résidence. C'est là que démarre le meilleur cache-cache du siècle. Carlos Ghosn réside dans une villa de Tokyo. L'entrée et la sortie sont surveillées par respectivement Passepartout et Passemuraille. Carlos doit réussir à s'échapper sans prendre de Uber et sans soudoyer Olivier Mine. Il y a 3 passeports conservés par ses avocats japonais pour limiter les risques de fuite, mais coquin malin, Carlos a conservé un autre passeport français sur lui dans un étui fermé par un code secret. Pendant 6 mois, Carlos bosse sur son évasion. Sa vie devient un peu la conception d'un escape game de VG, mais un escape game où pour t'aider, t'aurais pu recruter un ancien des services secrets américains et un ancien des forces spéciales, Michael et son fils Peter Taylor. Le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn, coiffé d'un chapeau ridicule et d'un masque chirurgical, quitte sa résidence et se rend à l'hôtel Grand Hyatt de Tokyo. Arrêtons-nous là, fin décembre, alors que le grand public ne sait pas grand-chose encore du Covid-19, Carlos porte déjà un masque. Faut-il y voir un hasard, une coïncidence ou bien plutôt l'ombre d'une machination ourdie par les francs-maçons ? Nous verrons. Dans l'hôtel, Carlos retrouve ses complices, dont Michael Taylor, qui se font passer pour des musiciens. Mal, mais ça passe. À la fin du concert, ils cachent Carlos dans une malle pour instruments de musique et, parce qu'ils sont quand même pas complètement tarés, il perd 70 trous, lui permettant de respirer. Un avion d'affaires décolle à 23h10 dimanche 29 décembre 2019 à destination d'Istanbul, avec les deux musiciens et Carlos. Non, pas lui, l'autre, Ghosn. L'escale à Istanbul, puis Beyrouth, terminus, tout le monde descend. Depuis, tous ses complices sont dans la mouise jusqu'au cou, notamment les Taylor qui sont sur le point d'être extradés vers le Japon à l'heure où on parle. Lui, Carlos, se la coule douce dans sa villa familiale de Beyrouth. Ah oui, non, je précise, du bon côté de Beyrouth, hein, sa femme de ménage a eu un peu plus de poussière à faire que d'habitude, mais rien d'insurmontable non plus l'autre jour. Alors, que fait Carlos Ghosn désormais ? Il prépare sa défense minutieusement, étudiant chaque argument avec ses avocats ? Non, il fait des tournois de bridge en ligne en bouffant du houmous. Évidemment, on attend tous la saison 2. Une série est d'ailleurs en préparation sur l'itinéraire de celui qui restera malgré tout comme un grand stratège, un modèle pour beaucoup de chefs d'entreprise. Il avait d'ailleurs cette phrase, Stéphane, que vous devriez méditer maintenant qu'on bosse ensemble. Le manager trop mou et le manager trop dur sont deux catastrophes. Conclusion, un bon patron, c'est un cookie. Ni trop dur, ni trop mou. En somme, une demi-molle. Voilà ce que j'attends de vous, Stéphane.
Merci Mathieu. C'était quoi le 1% de faux dans ce portrait ? C'est Passepartout et Passemuraille ou c'est...
Non, c'est le houmous. Carlos déteste ça.
Europe 1, historiquement vôtre.
Une recette, un plat ou encore des expressions pas piquées des hannetons, on les utilise encore aujourd'hui,
vous,
surtout moi.
Vous surtout.
Mais chaque jour dans Historiquement Vôtre, on vous prouve que tout cela ne date pas d'hier. Olivier Pouls nous raconte l'histoire de la salade niçoise et quant à moi, j'aurai comme à chaque fois le mot de la fin.
Vous croyez vraiment Stéphane ?
Ben oui Mathieu.
Perdu, c'est encore moi qui l'ai eu. Vous êtes nul là-dessus.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Il est deux circonstances dans lesquelles les yeux de Stéphane Bern s'illuminent soudain et jettent des éclairs d'excitation. Lorsqu'il tombe sur un médaillon de Marie-Thérèse d'Autriche et lorsqu'il tombe sur un médaillon de veau. Car oui, l'histoire de France est aussi l'histoire de la gastronomie. Ces plats qu'on aime, qu'on cuisine, ont une histoire souvent surprenante comme vous le découvrez chaque après-midi dans...
Papy de la Nation.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis.
Vous êtes un peu, on peut le dire, notre historien des plaisirs de la table. Aujourd'hui, vous nous parlez de la salade niçoise.
Oui, et attention, là, on va s'attaquer à une institution.
Ah oui.
Ah oui.
Faites attention à
pas
vous.
Pas d'approximation.
Vous êtes calé sur la salade niçoise,
pas
Stéphane.
Ah, non, mais il y en a deux cuisiniers célèbres qui ont fait les frais des foudres des Niçois pour avoir osé interpréter la salade niçoise à leur façon. C'est le grand Auguste Escoffier et plus de manière plus contemporaine Cyril Lignac cet été qui a tenté de la revisiter et qui malheureusement a pris cher comme on dit sur les réseaux sociaux.
Alors dites-nous déjà comment est née la salade.
D'abord ça naît quand et il y a quoi dedans.
Je crois que c'est l'objet de sa chronique Stéphane.
C'est vrai. Ça tombe bien.
J'aimerais savoir qui a mangé la première salade niçoise.
Bon alors ça je pourrais pas vous le dire mais la salade niçoise apparaît à la fin du 18e siècle au moment où on commence à consommer des tomates crues dans la région. Bah, la tomate n'est pas originaire de Nice quand même, hein. Elle arrive un petit peu plus tard, elle arrive avec les navigateurs espagnols et puis elle s'installe sur le bassin méditerranéen. Donc fin 18e siècle, on mange des tomates crues et on les agrémente très simplement parce que la salade niçoise est un plat de pauvres, de quelques anchois qu'on a pêchés et d'un filet d'huile d'olive. À l'origine, la salade niçoise, c'est ça.
C'est pas ouf. Hein.
Mais petit à petit, on va l'agrémenter de quelques légumes de saison et locaux. On va jouer à un petit jeu, je vais vous donner des ingrédients et vous allez me dire si oui, ou non, c'est autorisé dans la salade niçoise. Si vous vous trompez, je vous mets nu au milieu de la place principale de Nice et croyez-moi, il va vous arriver des bricoles.
Hein. Place Masséna, on sera joli, Stéphane.
Bon alors, on est d'accord, les tomates, les anchois, c'est validé.
C'est la base.
Alors, est-ce qu'on peut y mettre des poivrons ?
Non.
Eh bien si, on peut y mettre des poivrons.
Non, on a tort.
Est-ce qu'on peut y mettre...
On les digère mal.
Mais il faut les éplucher. Il faut les éplucher,
Stéphane. Ouais.
Vous les digérez bien un peu ?
Oui, très bien.
Est-ce qu'on peut y mettre des œufs durs ?
Oui.
On peut
y
mettre... C'est le seul ingrédient cuit qui est autorisé dans la salade niçoise. Tous les autres ingrédients doivent être crus. Est-ce qu'on peut y mettre du maïs ?
Non.
Pas du tout.
Surtout pas.
Bien évidemment. Est-ce qu'on peut y mettre des cébettes ?
Oui.
On peut y mettre
des
cébettes.
Oui, ça,
absolument. Et est-ce qu'on peut y mettre de la pomme de terre ? Là est tout l'enjeu.
Là, c'est tout l'enjeu. C'est la pomme de terre.
Non, la pomme de terre, Stéphane.
Non.
Eh bien, pas de pommes de terre. C'est rigoureusement interdit parce que la pomme de terre, elle est cuite.
Il y en a qui vous la servent à Paris. Vous demandez une salade niçoise.
Mais moi, je la renvoie, Stéphane. Je la renvoie.
Ben évidemment.
Ah, oui.
Et alors, l'autre ingrédient qui est interdit et qu'avait osé mettre Auguste Escoffier, ce sont les haricots verts.
La sauce samouraï.
Non, les haricots verts, non plus.
Mais jamais.
Et Cyril Lignac, il met quoi, lui ?
Qu'est-ce qu'il a fait, lui, il est allé jusqu'à mettre du parmesan. Alors, imaginez-vous ce qui s'est passé quand les Niçois ont découvert ça. Non, la salade niçoise, la recette, c'est très simple. C'est les tomates bien mûres en dessous. Ensuite, on peut mettre un petit peu de salade, un peu de mesclun. On va mettre les légumes du jardin. Donc, si on a des cébettes finement hachées, très bien.
On a le droit aux courgettes ou pas ?
Alors non, pas de courgettes.
Le concombre, normalement, non. Mais
on n'y a pas le droit. Bah oui, je sais, mais on n'y a pas le droit. Et puis après, on peut mettre les anchois. Certains tolèrent un peu de thon. Et on va terminer avec un filet d'huile d'olive. Et basta, comme on dit, rien d'autre pour la salade niçoise.
Bon, bah écoutez, on se retrouve demain chez Olivier Pouls. En tout cas, on retrouvera la
recette. Si je suis toujours vivant, si j'ai pas dit de conneries, parce que
je crois que sinon... En tout cas, on retrouvera la vraie salade niçoise sur Europe 1.fr.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand, dans Historiquement vôtre, les chevaux sentent l'écurie et qu'on pourrait croire qu'entre Stéphane Bern et moi, il y a de l'eau dans le gaz, on vous prouve à chaque fois qu'on en a encore sous la pédale. Rien que dans cette phrase, Stéphane, il y a trois expressions que j'utilise fréquemment sans savoir d'où elles viennent, ni même ce qu'elles signifient à la base. C'est pour parer à cette ignorance crasse que Dieu a créée. Les pommes de Stéphane Bern. Vous aimez bien quand je lance avec une musique comme
oui,
ça,
c'est
un,
peu,
un gospel.
Oui. Merci, cher Mathieu. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un barbu. Alors,
merci,
désolé,
merci.
Aussi aimable que vous soyez avec moi. Il ne sera pas question de vous, Mathieu, ni de Landru ou de Jean Jaurès, mais de Karl Marx. Il y a 153 ans, jour pour jour, était publiée la première version de Das Kapital.
Qui figure toujours en bonne place sur votre bibliothèque.
Parlons donc économie, parlons capitalisme, parlons argent, pépette, thune, flouze, oseille, mais surtout, ou cash, mais surtout, pourquoi dit-on payer en argent liquide quand on règle en pièces métalliques?
C'est vrai qu'on peut
papier.
Le dire, c'est complètement con ça, Stéphane. Hein, l'argent liquide, on a du mal à voir d'où ça vient.
C'est pas liquide, puisque c'est...
Mais pas du tout.
Oui, c'est des pièces ou des billets.
C'est dur, en argent dur.
Surtout que ça allait avec le thème de l'émission, cash.
Cache, mais oui, mais ça, j'ai bien aimé que vous l'avez souvent souligné. Vous trouvez la thématique particulièrement bien ficelée.
Je trouve que c'est cohérent ce que vous avez voulu faire. L'explication est toute simple. Elle nous vient d'Italie. Nous sommes au 15e siècle et pour désigner des biens libres de dette, des biens donc disponibles, transférables dans l'immédiat et donc pouvant s'écouler facilement, on disait liquido.
Liquido. Ah.
À cette époque, cela concernait surtout des terres ou des maisons. Puis par extension, en France, le mot liquide s'est appliqué aux espèces qui pouvaient faire l'objet de transactions aussi rapides qu'efficaces, sans intermédiaire ni vérification. D'ailleurs, dans le langage économique actuel, les entreprises, pour évoquer leur capacité à pouvoir payer leurs dettes, parlent de liquidité. Ce n'est pas à vous, Mathieu, ancien élève de Sciences Po, que j'apprends quelque chose.
Oui, d'ailleurs, maintenant, vous ne m'apprenez rien du tout. D'ailleurs, mon banquier m'a appelé pas plus tard qu'hier pour me dire « Monsieur Noël, vous manquez de liquidité ». J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire.
En France, on paye en liquide. Dans les pays anglo-saxons, « we pay cash ». En Espagne, c'est « pagar con dinero contante y sonante ». Comprenez, en monnaie sonnante et trébuchante. Le trébuchet, c'est d'ailleurs la pièce... Vous savez, quand on battait la monnaie, c'est là où on la faisait tomber. Quand en Roumanie, on paye en argent glacé. Alors, ne me demandez pas pourquoi l'argent est glacé. Peut-être parce qu'il fait froid, mais enfin voilà. Dans une future chronique, nous parlerons de l'expression « payer en monnaie de singe ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve immodestement que cette séquence dans « Historiquement vôtre » vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
Oh, bah ça, je vous le confirme. Ça. Valamo el pesanto del cacahuetos, comme on dit dans votre espagnol à vous, en tout cas. Historiquement
Espagnol de cuisine.
Historiquement vôtre touche à sa fin, les amis. 2 heures durant lesquelles nous avons appris bien des choses et qui nous permettront d'aborder le dîner de ce soir serein, prêt à moucher nos proches avec de truculentes anecdotes. Par exemple, Stéphane, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui ?
Écoutez, j'ai bien aimé votre description de la fuite de Carlos Ghosn. Parce que moi qui vis dans l'histoire, vous comprenez, je vis avec Nefertiti et l'homme du placard, là, Michel-Ange.
Mais, doublement du placard.
Mais vous,
mais moi,
vous m'avez parlé
de... contemporains. Je vous ai mis même l'évasion de Carlos Ghosn avec la musique de Fort Boyard.
Oui, j'ai trouvé ça magnifique.
C'était vraiment, pour que vous viviez vraiment comme
non,
ça.
Mais, voilà un homme qui avait, que je savais sans difficulté financière. Que je sais maintenant, sans domicile fixe.
Sans domicile fixe aussi. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane, dans le nouveau numéro d'Historiquement Vôtre ?
Demain, nous évoquerons les meilleurs attaquants de l'histoire.
Ah, bah, ça c'est mon... Neymar, Mbappé, Papin, Klinsmann, Miroslav Klose, Ronaldo, Didier Drogba, Rudi Völler.
Peut-être, qui sait. Mais aussi, mes attaquants à moi de l'histoire, Marc-Antoine et Napoléon.
Je connais pas, ils évoluaient où ?
16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre.
Historiquement Vôtre se termine. Je vais éponger les larmes qui ruissellent sur les joues encore pouponnes, quoique poilues, de Mathieu Noël. Inconsolable chaque fois qu'il me quitte.
C'est vrai que c'est dur. Je me console en me disant qu'on se retrouve demain pour 2 heures d'histoire décomplexée. 3 personnages qu'a priori rien ne relie. Et pourtant...
ils ont un point en commun. Demain, c'est une spéciale grands attaquants. Marc-Antoine, Napoléon...
et Eric Cantona. Est-ce que vous avez déjà joué au foot une fois dans votre vie, Stéphane ?
Oui, absolument.
C'est vrai ?
Oui,
vous avez marqué un but ?
Jamais, non. mais j'aime beaucoup Eric Cantona. Il est merveilleux. Je ne l'ai pas connu comme
acteur. Vous le connaissez comme acteur ?
Je le connais comme acteur.
On parlera plus de sa carrière de footballistique.
Ah, vraiment ?
Oui, comme ça, vous découvrirez quelque chose.
Parce qu'il était le duc d'Anjou dans un film.
Il était le duc d'Anjou
oui,
dans quel film ?
Dans un film historique sur Élisabeth Ière.
Tiens.
Oui, un film anglais et il parle avec l'accent français.
Il a joué aussi dans un film de Ken Loach, son propre rôle, qui s'appelle Looking for Eric, où il a cette phrase, il dit « I'm not a man, I am Eric Cantona ».
Formidable.
Demain, je vous raconterai son histoire.
« My name is Byrne, James Byrne ». Bon, à demain.
Quoi ?
Non mais, c'est pas, j'essaye de faire comme Eric Cantona.
Mon nom est Byrne, James Byrne, c'est ça que vous venez de dire ?
C'est pas ce que vous dites, James
étonnant.
Bond.
Écoutez, mieux vous rendre l'antenne, Stéphane. À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.